Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes, au micro Idrissa Seydoudia, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 2 octobre 2014, en direct de Washington, en compagnie de Georges Léonard Sagnot. Bonjour Georges.
Bonjour Doyen, on espère que la technique va nous accompagner.
On l'espère aussi. Au sommaire de cette édition, au Texas, 18 personnes sous surveillance étroite. Elles ont été en contact avec le premier patient porteur du virus Ebola, diagnostiqué aux États-Unis.
La Banque africaine de développement consacre 152 millions de dollars à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Save the Children tire la sonnette d'alarme. Au moins 5 nouvelles infections au virus à Ebola toutes les heures, je dis bien toutes les heures, en Sierra Leone, dit l'ONG.
Un Somalien américain condamné à 30 ans de prison pour complot visant à un attentat à la bombe il y a 4 ans aux États-Unis.
À Hong Kong, les protestataires menacent de prendre d'assaut les bureaux du gouvernement si le chef de l'exécutif ne démissionne pas à la fin de la journée.
Démission ici aux États-Unis de la directrice du Secret Service, la police d'élite chargée de protéger le président et sa famille suite à plusieurs scandales dans cette unité douanière.
Et ne manquez pas la musique de Roger Montou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Le gouverneur du Texas, Rick Perry, dit que les autorités sanitaires surveillent quelques 18 personnes qui ont été en contact avec le premier patient porteur du virus Ebola à avoir été diagnostiqué aux États-Unis. Parmi eux, 5 enfants, des élèves. Les ambulanciers qui l'ont transporté à l'hôpital ont testé négatif.
Ceux qui ont été en contact avec le patient depuis son arrivée aux États-Unis le 20 septembre dernier seront sous étroite surveillance pendant au moins 21 jours, la période d'incubation du virus. Mais les autorités ne pensent pas qu'il y ait d'autres cas suspects. Le patient, Thomas Eric Duncan, qui venait du Liberia, est dans une unité d'isolement d'un hôpital de Dallas. Son état a été qualifié hier de sérieux, mais stable.
Selon un officiel de l'hôpital, quand Duncan a commencé à se sentir mal, il a dit à l'infirmière, dès sa première visite aux urgences, qu'il venait du Liberia. Mais cette information n'a pas été transmise à toute l'équipe soignante. C'est ainsi que Duncan a été renvoyé chez lui avec des antibiotiques. Mais il est retourné 2 jours plus tard pour être hospitalisé.
La fièvre hémorragique Ebola a fait 3338 morts en Afrique de l'Ouest sur 7178 cas enregistrés selon le dernier bilan de l'OMS publié hier à Genève. Timothée Denangmeng.
Selon l'OMS, il y a eu une nette chute de nouveaux cas confirmés au Liberia ces 2 dernières semaines. En revanche, en Sierra Leone, la situation continue à se détériorer. Les agents de santé sont particulièrement touchés avec 216 morts sur 377 infections. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo a tué 42 personnes sur 70 cas recensés depuis son apparition le 11 août dernier. La fièvre hémorragique Ebola est hautement contagieuse, mais l'infection ne se produit que par contact direct avec des fluides corporels ou sécrétions. La période d'incubation va de 2 à 21 jours et le patient devient contagieux à partir du moment où il présente des symptômes de la maladie.
Un Somalien américain a été condamné à 30 ans de prison pour avoir comploté un attentat à la bombe il y a presque 4 ans dans l'État d'Oregon au moment de la fête de l'arbre de Noël. Il avait été arrêté en novembre 2010 après avoir composé sur son portable un numéro qui, pensait-il, allait faire exploser une bombe installée dans une camionnette garée près de l'endroit où se déroulait la cérémonie à Portland. Il ne se doutait pas qu'il tombait dans un piège tendu par des agents du FBI qui se faisaient passer pour des recruteurs d'Al-Qaïda. La bombe, bien sûr, n'était pas réelle.
Mohamed était étudiant à Oregon State University quand il a été approché par ses prétendus agents d'Al-Qaïda après que le FBI eut appris qu'il correspondait par email avec les terroristes et publiait des articles dans un magazine djihadiste en ligne. Ses avocats disent qu'il va faire appel. Avant sa sentence, il avait présenté des excuses, reconnaissant, je cite, que les choses qu'il avait dites ou faites étaient terribles.
Un sommet des lauréats du prix Nobel de la paix, prévu dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, pourrait être annulé, et cela en raison d'un boycott pour protester contre le refus de l'Afrique du Sud d'accorder un visa au Dalai Lama. Jean-Roger Bion.
Six lauréates ont annulé leur visite en Afrique du Sud après que le gouvernement a refusé l'entrée du Dalai Lama dans le pays le mois dernier. Elles accusent la Chine de pression sur les pays pour empêcher les relations avec le Dalai Lama, qui lui-même est lauréat du prix Nobel de la paix. Le sommet mondial des Nobel de la paix était prévu au Cap du 13 au 15 octobre, mais la ville s'apprêterait à en annoncer l'annulation ce jeudi. Aucune nouvelle date et aucun nouveau site pour le sommet n'ont été retenus. L'une des six lauréates boycottant la rencontre du Cap, l'américaine Jody Williams, a déclaré lors d'une conférence de presse dans la ville indienne de Dharamsala qu'elle était fière que l'initiative ait donné lieu à l'annulation du sommet. Elle a dit que les cinq autres lauréates du prix Nobel et elle ont été surprises lorsque l'Afrique du Sud a refusé le visa au chef spirituel tibétain. Ce sommet aurait été le premier du genre en Afrique du Sud. La Chine accuse le Dalai Lama d'être un séparatiste pour la cause tibétaine, une accusation qu'il nie. Le Dalai Lama vit en exil en Inde depuis qu'il a fui le Tibet en 1959.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Banque mondiale, connue pour demander aux États africains de se serrer la ceinture, a accordé des bonus à au moins quatre de ses hauts dirigeants. Une nouvelle qui suscite beaucoup d'inquiétudes au sein du personnel de la banque et des éléments de la société civile. Michel Joseph.
Le directeur financier de la Banque mondiale, le français Bertrand Badré, a reçu 94 000 dollars de bonus en 2014, enveloppe qui s'ajoute à un salaire annuel de 380 000 dollars. Au moins quatre dirigeants ont bénéficié de ces primes qui étaient jusque-là réservées aux dirigeants de la banque travaillant à l'étranger. En juillet 2013, l'institution de Bretton Woods a modifié ses règles pour accorder ses largesses à de hauts cadres du siège ici même à Washington. Nicolas Monbrial, directeur de l'organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam à Washington, n'a pas caché son émoi. Il a trouvé cette information très surprenante, surtout lorsque la banque est en train de réduire ses dépenses de 400 millions de dollars d'ici à 2016 et n'a pas exclu de possibles suppressions de postes. En juin, l'association du personnel de la banque avait fait part de ses doutes quant à ce plan d'austérité. Selon l'AFP, un tract anonyme a même circulé à l'intérieur de la banque. Il appelle les agents à éteindre leurs ordinateurs et quitter leur bureau pendant 15 minutes ce jeudi matin. La Banque mondiale s'est refusée à tout commentaire sur le sujet.
À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie font monter les enchères, avertissant que les étudiants occuperont les bureaux du gouvernement si le chef de l'exécutif de ce territoire chinois ne démissionne pas. Ils ont lancé leur ultimatum hier en donnant à Liung Chung-ying jusqu'à la fin de la journée de jeudi pour partir.
Mais il n'était pas clair ce matin si tous les groupes de protestataires étaient d'accord sur cette menace de prise d'assaut des bureaux du gouvernement de Hong Kong. Et la situation est rendue plus confuse encore par les informations selon lesquelles M. Leung serait réticent à user de la force, préférant avoir à l'usure des manifestants. Il a refusé de démissionner ou de rencontrer les leaders du mouvement qui demandent aussi que Pékin renonce à ses projets d'avoir un droit de regard sur les candidatures à la succession de Leung en 2017.
Le président Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rencontrés hier à la Maison-Blanche. Les deux hommes ont tenu des propos polis mais fermes sur les questions litigieuses au Moyen-Orient. C'était leur premier face-à-face depuis la guerre de juillet et août dernier entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.
Cette guerre a coûté la vie à plus de 2100 Palestiniens, des civils pour la plupart. Pour M. Obama, Israéliens et Palestiniens doivent trouver les moyens de changer le statu quo pour résoudre les questions qui ont mené à cette guerre. Quant à M. Netanyahou, il a rendu hommage à M. Obama pour, je cite, « son soutien indéfectible pendant le conflit ». Mais a-t-il poursuivi, l'éventuel développement d'armes nucléaires par l'Iran est plus critique encore. Le premier ministre israélien a dit espérer ardemment que les États-Unis ne lèveront pas les sanctions contre Téhéran.
La directrice du service secret, ce qu'on appelle le Secret Service, la police d'élite chargée de protéger le président américain, a démissionné hier à la suite de multiples scandales au sein de ce corps. Félix Yepasis Zembro.
C'est le ministre de la Sécurité intérieure, Jay Johnson, qui l'a annoncé hier dans un communiqué en saluant les 30 années de Mme Pearson au service de cette police d'élite. Il a nommé un directeur par intérim, Joseph Clancy, retraité du Secret Service en 2011. Julia Pearson avait reconnu mardi des failles inacceptables dans son service, chargé de protéger le président et sa famille. Le tout dernier incident est l'intrusion à la Maison-Blanche le 19 septembre d'un homme qui avait escaladé la clôture, traversé le jardin et franchi l'entrée principale avant d'être arrêté. Par la suite, les médias ont relaté un autre incident où un homme armé a pu prendre l'ascenseur avec le président Obama le 16 septembre à Atlanta, en Georgie. Madame Pearson a été nommée pour remettre de l'ordre au sein du Secret Service qui a déjà été secoué par de multiples scandales ces dernières années. Hier, Omar Gonzalez, l'homme qui était entré à la Maison-Blanche, a été formellement accusé d'intrusion illégale dans un édifice protégé, port d'armes et possession illégale de munitions. Il a plaidé non coupable et est maintenu en détention. La prochaine audience a été fixée au 21 octobre et il risque jusqu'à 16 ans de prison.
Voilà pour le journal. Merci à Georges Léonard Sagno, Washington, La Voix de l'Amérique. Cri d'alarme de l'ONG Save the Children. On signale au moins 5 nouvelles infections au virus à Ebola en Sierra Leone toutes les heures. Et l'on a recensé au moins 765 nouveaux cas la semaine dernière, alors que le pays ne compte que 327 lits pour les recevoir. Si les donateurs ne se mobilisent pas dans les plus brefs délais, affirme Eric Hazard de l'ONG Save the Children, il sera impossible de juguler l'épidémie.
On a estimé actuellement qu'en une semaine, on a eu à peu près 765 nouveaux cas qui sont apparus dans un pays comme la Sierra Leone. Ça veut dire à peu près 5 nouvelles personnes qui sont infectées chaque heure. Ce que l'on voit dans un pays comme la Sierra Leone, où il n'y a que 327 lits disponibles, si on a 765 nouvelles personnes à traiter en une semaine, la situation devient juste critique et intenable. Et concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, à Freetown, tous les jours, on a nos équipes qui nous rapportent que de nombreuses personnes qui sont malades, qui sont affectées et qui essaient de partir à l'hôpital ou dans les centres de traitement sont obligées de retourner chez elles avec l'infection. D'abord, elles ne peuvent pas être soignées, mais surtout, elles risquent de renforcer la diffusion et la contamination déjà extrêmement exponentielle qui a lieu dans les trois pays les plus infectés que sont la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.
La Grande-Bretagne a promis 700 nouveaux lits à la Sierra Leone, mais entre-temps, où en sont les donateurs?
On peut dire qu'il y a une forte mobilisation, comme on a rarement dans les crises humanitaires habituelles. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir s'assurer finalement que les ressources qui vont être mobilisées vont être rapidement disponibles sur le terrain. Il y a un mois, les besoins étaient estimés à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle d'un milliard de dollars juste pour couvrir la réponse et les besoins actuels. Et on a à peine 28 millions de dollars qui ont été déboursés. Donc il y a un vrai besoin que l'argent soit mobilisé, surtout délivré, accessible dans les deux semaines qui arrivent.
Mais est-ce que les aéroports sont ouverts?
On a un corridor qui a commencé à s'ouvrir au niveau du Ghana. Le corridor au niveau du Sénégal, semble-t-il, a commencé lui aussi à fonctionner. Et c'est certainement là que va se trouver la réponse à la crise. Parce qu'aujourd'hui, si l'argent finalement n'est pas la principale inquiétude, même s'il faut qu'elle arrive rapidement sur le terrain, la principale inquiétude, ça va être la capacité, au-delà des finances, d'avoir les bonnes personnes à la bonne place au bon moment. On sait par exemple que les travailleurs, les médecins, les infirmiers ont été finalement les personnels le plus touchés par la crise. En Sierra Leone, près de 10% du personnel médical a été affecté par Ebola. Ça veut dire aujourd'hui qu'on manque cruellement de médecins, on manque cruellement d'infirmiers, on manque cruellement de logisticiens. Et donc, au-delà finalement des ressources qui sont mobilisées, il faut que ce personnel puisse arriver sur place et puisse arriver sur place avec le matériel nécessaire. Et donc, c'est là aussi que la course contre la montre se situe et que les corridors humanitaires, plus que jamais, doivent être activés très sérieusement.
Eric Hazard de l'ONG Save the Children, joint à Dakar par Camille Grosdidier. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, la Banque africaine de développement et des pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé un appui budgétaire sectoriel d'un montant d'environ 152 millions de dollars. Les ambassadeurs des pays touchés par la maladie qui ont pris part à la cérémonie de signature ont promis d'utiliser ces fonds dans les domaines précisés par la BAD. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Germaine Ri.
Ce sont au total 223 millions de dollars américains que la Banque africaine de développement a décaissé en 5 mois pour lutter contre l'épidémie Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La troisième phase qui s'est opérée ce mercredi vise à soutenir les budgets des États des pays infectés par le virus. Un geste qui est salué par l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, Madame Olga Siradin.
Nous vous donnons, Monsieur le Président, toute l'assurance que cette assistance sera utilisée avec le respect des conditions de la bonne gouvernance. Cette assistance technique dans le cadre de la santé permettra de soutenir la croissance pour ne pas fragiliser davantage nos pays. Ce sont les hommes par le travail qui créent la richesse. S'ils sont malades, l'économie est malade.
La Côte d'Ivoire, qui multiplie les mesures de prévention, n'a pas été oubliée. Selon la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, l'exemple de là-bas doit être suivi.
Il s'agit là d'un exemple que nous souhaiterions voir suivre tous les partenaires et j'allais dire tout le monde. Et je voudrais ici me réjouir du début d'effervescence que nous notons autour de cette maladie. L'important donc que vous apportez à la Côte d'Ivoire constitue un appui budgétaire qui va permettre au gouvernement de financer une partie des coûts budgétaires supplémentaires du programme de riposte contre Ebola.
Quant au président de la Banque africaine de développement, il souhaite une forte mobilisation parce que la maladie dépasse les frontières de l'Afrique de l'Ouest. Donald Kaberika.
Cette crise n'est pas une crise ouest-africaine. Ce n'est même pas une crise africaine. C'est une épidémie qui peut toucher n'importe qui dans le monde. Il y a des gens qui envoient des équipements militaires, des médecins. Je voulais vraiment remercier tous ces pays-là et demander aux autres d'en faire autant, mais avec vitesse et souplesse. Je voulais insister aussi sur le fait que quand Ebola sera éliminé, ces pays auront besoin de soutien très important au niveau des économies.
Jean Mendry, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Les parlementaires nigériens se sont réunis hier en session pour examiner le budget de l'année prochaine. Seulement, la session s'est ouverte sans les députés de l'opposition qui ont décidé de ne pas prendre part à la cérémonie, dont la convocation est illégale selon eux, parce qu'elle a été faite par le vice-président au lieu du président de l'Assemblée, bien que celui-ci soit en exil. D'autres détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
Malgré le boycott des députés de l'opposition, la session budgétaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 1er octobre. Dans son discours, le 4e vice-président de l'institution n'a pas fait cas de ce boycott. Ben Omar Mohamed s'est plutôt appesanti sur le principal point à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la loi des finances portant budget 2015, avant de revenir sur la particularité de cette session.
C'est pour la première fois qu'elle va s'ouvrir en l'absence du président de notre institution. Comme vous le savez, il est impliqué dans une affaire de droit commun dite de supposition d'enfant. Le 26 août dernier, nous nous sommes acquittés d'un devoir en répondant comme nous l'avons fait, avec comme finalité la mise de l'intéressé à la disposition de la justice par le bureau de l'Assemblée nationale. Cette procédure a eu le mérite de symboliser une grande leçon se rapportant à la pratique démocratique et à l'état de droit. Nous, membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'avons fait en âme et conscience, car nous croyons que c'est la seule et unique voie qui pourrait le laver de tout soupçon et permettre d'élucider ce dossier gênant dans lequel notre collègue M. Amadou se trouve impliqué.
Parallèlement à la cérémonie d'ouverture de cette session, les députés de l'opposition expliquaient à la presse les raisons de leur boycott. Haïdara Mohamed, député du MNSD Nassara, le principal parti de l'opposition.
Pour nous, c'est une question de simple bon sens. Nous sommes à l'Assemblée, c'est une chambre où les lois sont votées et les députés sont normalement les premiers à s'inscrire dans le respect des textes de la République. Or, nous avons constaté qu'en violation de l'article 91 de la Constitution, La session du 1er octobre a été convoquée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cet article 91 dit notamment que chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son président. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué effectivement la session, mais pour le 7 octobre. Donc les dispositions constitutionnelles en la matière sont assez claires. Pour nous, assister à la session de ce matin, c'est une façon d'être dans l'illégalité. Et l'opposition a inscrit son combat dans le respect des textes de loi et règlements de la République. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur l'illégalité de cette convocation.
Tout cela se passe en l'absence de Hama Amadou, en exil en France depuis quelques semaines. Récemment, le juge lui a décerné un mandat d'arrêt national dans le cadre de l'affaire du trafic de bébés dans laquelle une de ses épouses est présumée impliquée. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour La Voix de l'Amérique.
En RDC, suite du procès relatif à l'assassinat du général Mamadou Ndala, alors que la population de l'Est attend de connaître la vérité sur la mort de son héros. Les précisions d'Eddy Isango.
12 prévenus ont comparu à ce début du procès alors que 8 autres accusés sont en fuite. Parmi les prévenus, l'ancien commandant chargé de la sécurité de la ville de Beni et le chauffeur du général Ndala, les sergents-majors Arsène Dabou. Dabou est notamment accusé de non-assistance en personne en danger. Pour sa défense, Dabou a déclaré à la cour avoir continué à conduire le véhicule à bord duquel était le général Ndala, 1 kilomètre de plus, bien que le véhicule était touché par un coup de roquette. C'est plus tard que Dabou a remarqué que le général Ndala était mort de suite des éclats de l'obus. Le chauffeur a dit être allé chercher du secours auprès des casques bleus et a retrouvé le général Mamadou mort à son retour et le véhicule en feu avec le corps du général à l'intérieur. Les enquêtes du tribunal se sont orientées sur la piste d'un règlement de compte au sein de l'armée congolaise, mais l'enjeu de ces procès est déterminé par la réaction de la population. La Voix de l'Amérique a interrogé à ce sujet Didier Miseke, journaliste à Beni, qui a assisté au début de ce procès qui s'étalera sur un mois. Suivons Didier Miseke.
La population attend ce que la vérité, que la justice soit rendue à qui de droit, et surtout que la population a peur que ce procès soit fait comme celui de Floribé et Tchobéa, que jusqu'à maintenant, c'est toujours flou. La population veut ce que la vérité soit établie, et surtout que qu'on sache qui a tué Mamadou, qui avait qui parmi ceux-là qui sont accusés. Et comme il y a des rumeurs, on parle de peut-être c'est tel ou tel. Parmi ceux-là qui étaient chaque fois cités, il y a ceux-là qui étaient présents.
Mamadou Ndala est considéré par les Congolais comme un héros pour avoir conduit l'armée congolaise à des victoires successives contre les rebelles du mouvement du 23 mars. La dernière victoire de Mamadou a ramené une paix relative dans l'est de la République démocratique du Congo, une région qui était en guerre depuis 18 ans. Les mérites de cet officier de 35 ans ont été reconnus par le gouvernement congolais qui l'a élevé au rang de général à titre posthume.
Les nombreux et talentueux stylistes africains peinent à s'imposer dans le marché mondial de la mode malgré toutes leurs tentatives, y compris les défilés et expositions en dehors du continent, nous dit Nathalie Barge. Ce manque à gagner pour le continent est une question lancinante que les principaux grands couturiers africains ne cessent de remettre sur la table de leurs décideurs, dans l'espoir d'être soutenu concrètement et de pouvoir ainsi réellement participer au développement économique de l'Afrique, ajoute Nathalie. Elle a reçu dans nos studios ici à Washington la styliste malienne Marietou Diko, qui a fait le plaidoyer des créateurs africains. Marietou s'explique à partir d'un exemple simple, le fameux boubou connu dans le monde entier.
Le boubou, c'est quoi? C'est une étoffe qui est métable. On passe la tête dessus et tranquille, on est net. Et ce boubou-là, je l'ai même vu sur des designers américains ici qui font le boubou. C'est le style de boubou mis au goût du jour que moi, j'appelle le boubou et ses déclinaisons. Mais il y a aussi des chemisiers que nous faisons pour dames avec des étoffes africaines.
Moi, je reviens au boubou. On ne voit pas de boubou dans la rue, en Occident, dans ces villes. On en voit quelques-uns, mais on pourrait en voir plus aussi.
Ben, on ne peut pas en voir plus parce que ce qui s'est passé avec les créateurs de mode qui existent sur la place depuis des décennies, c'est qu'ils ne se sont pas attelés à avoir des espaces dignes de ce nom pour que la mode africaine puisse être connue. Quand on ne connaît pas quelque chose et quand il n'est pas disponible, quand une chose n'est pas disponible, on ne peut pas l'avoir. Donc, ce qui manque, c'est avoir, au lieu de prendre des fonds des ONG, de chez les présidents et tout, et aller faire des défilés de mode, pourquoi ne pas développer la mode africaine dans les pays développés et faire des espaces, des corners pour tous les designers? C'est très beau d'aller faire des défilés sur le désert, d'aller faire des défilés, mais c'est un défilé par an. Est-ce que tout le monde peut se déplacer pour y aller? Non. Et pour que ce soit développé, il faut des corners, il faut des espaces de vente pour dire voilà, nous sommes là, nous existons, le boubou est là. Le boubou et ses déclinaisons, déclinés sous toutes les formes, sous toutes les coupes, et avec du tissu africain ou un mélange de tissu africain.
Tout simplement, ce que vous dites, c'est le boubou, si on le voyait dans la plupart des boutiques, ne serait-ce qu'à Washington, les femmes s'habilleraient comme ça.
Bien sûr, chez Burberry's, chez H&M, la tendance, c'est le boubou. Les étoffes africaines avec des robes, des imprimés wax qui ont été repris. Le wax, c'est des imprimés des usines. Il y a des reprises, il y a eu même African Instinct qui s'est passé sur les 5 printemps de Paris, j'y étais. Et donc, il y a quelquefois le déclic, on nous lance des perches et nous n'arrivons pas à les saisir. L'argent que nous demandons aux personnes, aux nantis, on les utilise à faire du matu vu. Non, il faut penser au développement concret. Ce n'est pas s'imposer, c'est suggérer nos tissus. On ne peut pas imposer quelque chose à qui que ce soit, mais suggérer nos étoffes, suggérer notre mode et vulgariser notre mode.
La styliste malienne Marietou Diko au micro de Nathalie Barge. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
Nouvelle soirée de Ligue des Champions sur les pelouses européennes hier soir.
Oui, match nul 0-0 entre l'AS Monaco et le Zénith Saint-Pétersbourg. Victoire précieuse 2-0 de Malmö contre l'Olympiakos. La Juventus de Turin qui s'incline à Madrid face à l'Atlético 1-0. Et la victoire du FC Bâle 1-0 contre Liverpool. Le Real de Madrid de Karim Benzema l'emporte chez le Ludogorets 2-1. Et puis le Benfica de Lisbonne qui s'écroule à Leverkusen. Victoire 3-1 du Bayern. Festival offensif à Londres pour Arsenal qui domine Galatasaray 4-1. Et puis Anderlecht qui s'incline lourdement à domicile 3-0 face au Borussia Dortmund.
Le père de Neymar, lui, a été entendu par la justice espagnole.
Le père de la star brésilienne a défendu hier devant un juge la légalité des contrats signés pour le transfert de l'attaquant au FC Barcelone, affirmant que son fils avait rejeté une offre bien plus juteuse du Real de Madrid.
Les quarts de finale du mondial de basketball féminin en Turquie sont connus, à commencer par le pays organisateur, qui va rencontrer la Serbie qui a battu Cuba 86-79. Les autres résultats?
La Chine, victorieuse par 72-67 du Bélarus, affrontera l'Espagne. Le Canada a éliminé la République tchèque 91-71 pour aller affronter en quart l'Australie. Enfin, les États-Unis croiseront la France, victorieuse du Brésil 61-48.
Merci Nicolas. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Nous disons un grand merci à Georges Léonard Sagnon pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.